La Charte mondiale des migrants est un processus qui a été engagé depuis 2006. Il est né dans le cadre d'une discussion avec les migrants, l'idée d'écrire et d'établir une charte mondiale des migrants. On a beaucoup écrit sur l'immigration, il y a eu beaucoup d'expertises, il y a beaucoup de conventions. Il y a beaucoup de documents qui circulent dans le monde, des documents qui sont pertinents, avec des analyses intéressantes, etc. Mais jamais quelque chose n'a été écrit par les migrants eux-mêmes à partir de leur propre situation pour donner leur vision du monde. Et notamment pour qu'ils puissent s'exprimer sur un des droits fondamentaux que nous considérons comme un droit fondamental et qui n'est pas respecté alors qu'il est inscrit, y compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 13, qui n'est pas respecté, y compris par les États qui l'ont signé, qui est la liberté de circulation à travers notre planète pour l'ensemble des humains et la liberté d'installation aussi. Donc c'est une charte qui a pour colonne vertébrale l'affirmation de ce droit fondamental qui est la liberté de circulation et d'installation des êtres humains sur la planète au même titre que les droits qu'on a accordés à la marchandise et à l'argent. C'est une charte de principe, une charte éthique, politique, qui affirme un certain nombre de valeurs universelles à partir de la situation des migrants, en la transposant à l'ensemble de l'humanité et en voulant que ces droits soient les droits pour tous. Le premier droit, c'est la liberté de circuler et de s'installer là où bon nous semble. Le deuxième, comme un principe fondamental, c'est l'égalité des droits entre les humains quand ils sont dans un pays, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, l'égalité des droits dans un pays bien déterminé ou dans une région du monde. Les mêmes droits pour tous. Et la troisième chose, l'exercice de la pleine citoyenneté qui soit fondée sur la résidence et non pas sur la nationalité. Voilà des principes forts que nous voulons affirmer à travers cette charte, mais qui se déclinent également aussi. Donc ce n'est pas une charte de revendication, ce n'est pas une charte juridique. C'est une charte éthique à l'image de ce qui est, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la charte des libertés que Nelson Mandela avait écrite qui est devenue la Constitution de l'Afrique du Sud. Voilà. C'est des chartes de principe que nous voulons. Nous voulons que cette charte, elle soit une référence pour tous ceux, toutes celles qui sont amenées à prendre des décisions ou agir sur les questions de la mobilité humaine, qu'ils soient des gouvernements, que ce soit des parlements, que ce soit des institutions internationales, que ce soit l'ONU, etc. Nous voulons que ce soit une référence. Voilà ce que les migrants affirment comme principe éthique qu'ils veulent faire partager à l'ensemble de l'humanité. Et parce que nous voulons que les migrants, on change le regard sur eux, qu'on ne les voit pas uniquement comme des éclopés de la crise du système capitaliste, mais que ce sont aussi des acteurs potentiels de transformation sociale dans leur pays où ils vivent, ou aussi par rapport à leur pays d'origine. Donc des gens capables de pouvoir aussi participer à la transformation du monde, un monde plus humain, où le centre de gravité de ce monde nouveau que nous souhaitons soit l'être humain et non pas l'argent.
Qui peut participer à votre projet? Comment on peut vous rejoindre et comment vous irez écrire et préparer la charte même?
Ce processus, il est animé exclusivement par des migrants à titre individuel. Ce n'est pas une coordination d'organisation ou d'association. Ce processus est soutenu par des associations. Mais les associations ou les ONG, etc., n'interviennent pas et ne le dirigent pas. Ce sont les migrants qui le dirigent. À titre individuel, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur appartenance, associative, politique, syndicale, religieuse, etc. Tous les migrants, en règle générale, peuvent participer à ce processus. Depuis 2006 à maintenant, nous avons organisé ce qu'on appelle les ateliers d'écriture collective partout à travers la planète. Et on est parti avec une première proposition de charte qui est venue de Marseille. On est arrivé en 2010 à 4 propositions de chartes venant de 4 continents. Continent asiatique, latino-américain, du continent africain, du continent européen. Nous avons travaillé sur une synthèse unique maintenant. Et nous rentrons maintenant dans un processus d'adoption de cette charte-là, à Gorée en février 2011, à quelques jours de la tenue du Forum social. Et donc là, partout où nous avons la possibilité d'organiser ce qu'on appelle des assemblées de migrants pour qu'ils puissent amender, modifier ce projet de charte et en même temps qu'ils réfléchissent sur comment finaliser cette charte-là pour l'adopter et en même temps qu'est-ce qu'on en fait après, quelle perspective, qu'est-ce qu'on en fera après de la charte. Tout sera décidé à l'île de Gorée. Et vous le comprenez bien, on n'a pas choisi l'île de Gorée par hasard. C'est là, à l'île de Gorée, où on a confisqué l'humanité aux gens humains en enchaînant les gens, en les mettant dans les cales et en faisant des esclaves. Nous avons appelé ça Gorée 2011, le retour vers l'humanité. Nous voulons retourner. Et vous comprenez bien que quand il va y avoir des gens, des migrants qui vont venir du monde entier, d'Amérique latine ou des États-Unis, etc., et il va y avoir à la fois les descendants des esclaves, mais il y aura aussi les descendants des esclavagistes. Et ce sera un moment, je crois, symboliquement très très fort, d'une tentative, d'une volonté de réconciliation humaine. Ça ne veut pas dire l'oubli. Reconcilier les êtres humains, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas annuler la demande de réparation par rapport à ce qu'on a fait subir comme maltraitance aux êtres humains. Mais je crois que les migrants participent de ce point de vue-là à une tentative de réconciliation humaine et dire il faut qu'on arrête de penser continent par continent, pays par pays, et pensant en termes d'une seule communauté humaine unique dans le monde et penser aussi à cette terre à laquelle nous appartenons et aussi comment la protéger et comment faire pour que tout le monde puisse vivre d'une façon digne et convenable sur cette planète.
Quelle est la situation du point de vue juridique des garanties écrites dans les plusieurs constitutions européennes au sujet de l'accueillance aux migrants? Quelle est la réalité que les migrants vivent en général dans les différents pays européens?
Que ce soit en Europe, mais plus généralement dans le monde. Regardez ici, par exemple, la plus grande migration, elle est interafricaine. Elle est sud-sud. Hein. L'immigration sud-sud en Afrique, elle est plus importante que l'immigration du sud vers l'Europe. Hein. Partout dans le monde, on a constaté qu'il y a des politiques discriminatoires à l'égard des migrants. Elles sont toutes discriminatoires, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, partout. C'est la discrimination la plus totale. Toutes les mesures que les gouvernements prennent, ce sont des mesures sécuritaires à l'égard de l'immigration. Mieux que ça, l'Union européenne, elle externalise maintenant sa politique d'immigration en faisant reculer presque les frontières, en confiant la tâche aux pays du Sud pour qu'ils empêchent les gens de partir. Ce sont ces politiques-là, elles sont vouées à l'échec, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans mobilité humaine. Jamais l'humanité ne serait aujourd'hui au point où elle est. C'est le premier être humain qui est né au bord du lac Victoria, ici, dans ce continent, ne s'est pas déplacé. Jamais nous aurions eu les connaissances que nous avons aujourd'hui en tant qu'humains, etc. Si l'homme n'avait pas cette capacité de pouvoir échanger, de circuler, etc. Donc, ces politiques, elles sont complètement discriminatoires. J'étais en Mauritanie la semaine dernière. Il y avait la Commission européenne qui était là, des représentants. Ils disent, c'est pas nous l'Europe qui faisons, ce sont les États membres qui font leur politique. Donc ce sont des États souverains. J'ai dit, d'accord, nous pouvons comprendre ça. Mais il y a des mesures de sanction des États. Pourquoi, quand les États ne respectent pas la règle, c'est-à-dire quand ils ne veulent pas défendre les intérêts financiers, plus au détriment d'une politique sociale, vous les sanctionnez? Et pourquoi, quand ils portent des atteintes aux droits de l'homme, vous ne les sanctionnez pas? Il n'y a pas eu de réponse. En fait, tout est fait pour que les migrants soient utilisés ponctuellement, taillables et corvéables à merci. Et une fois qu'on n'en a plus besoin, on les rejette. Et donc, toutes les politiques qui sont faites, ce sont des politiques discriminatoires à l'égard des migrants. Mieux que ça, c'est qu'il y a y compris des pratiques, notamment ici dans le Sud, policières. Par exemple, quand on attrape des subsahariens au Maroc ou en Algérie, qu'on les met en plein désert et en disant « c'est là la route pour aller chez vous, en plein désert, sans eau, sans manger, etc. » Comment on peut appeler ça? Ce sont des meurtres. C'est pas autre chose. Quand on tire sur les migrants, c'est des meurtres. Aujourd'hui, à cause de ces politiques discriminatoires, qu'elles soient dans le Sud ou dans le Nord, les candidats à l'immigration payent le plus lourd tribut en vie humaine après les catastrophes naturelles et les conflits armés, par exemple en Méditerranée. Ça ne peut pas continuer, ça. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre de choses.
Et à partir des données que vous avez observées, quelle est la région dans laquelle les immigrés vivent la situation la plus dramatique?
L'Afrique du Nord, contre les candidats à l'immigration, et également en Europe, mais en Europe particulièrement, c'est en Italie et en France. La France qui est le cerveau du monstre dans ces politiques discriminatoires, c'est la France qui est la tête de pont. Et ces accords bilatéraux ou multilatéraux qu'il y a dans le cadre du Frontex avec les gouvernements des pays du Sud, c'est une catastrophe. C'est en Méditerranée, en fait, voilà. Et particulièrement dans les pays européens, c'est essentiellement, vraiment essentiellement, la France, l'Italie, qui a le plus de discrimination et de dispositions très discriminatoires à l'égard des migrants.
Est-ce que vous avez remarqué si la situation a changé pendant les dernières années?
Elle a beaucoup changé. Elle s'est dégradée complètement. Vous savez, on a mis des visas, par exemple, pour pouvoir accéder aux pays européens. Dans les années 70, quand moi j'ai immigré, je n'avais pas besoin de visa. C'était avec un simple passeport, je suis rentré en France et après j'ai trouvé un travail, on m'a fait un contrat, on m'a donné une carte de séjour et je me suis installé en France, ça fait maintenant 38 ans. Il n'y a pas plus d'immigrés en France que dans les années 70. Donc, on a mis des politiques discriminatoires. Mais je voudrais dire que tous les dispositifs législatifs qu'on a fait pour restreindre la liberté des migrants, en fait, ce sont des bancs d'essai. Parce qu'on commence par les migrants, mais on finit par les nationaux. Si on voit aujourd'hui en France les discriminations à l'égard des travailleurs et des plus pauvres, des précaires, on a commencé avec les migrants, après on a touché aux femmes et aux plus démunis, etc. Donc, nous vivons dans un système aujourd'hui où l'argent, il est fait pour faire de l'argent, tout simplement, par lui-même. Et donc l'argent ne sert plus à faire travailler les êtres humains, à les faire produire, etc., etc. Nous vivons dans un emballement financier terrible où l'argent aujourd'hui, c'est lui qui dicte toutes les règles, y compris aux États. Donc les États ne le font pas par eux-mêmes. C'est parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu énormes et ce sont les oligarchies financières qui dictent aux États leur politique à conduire. Donc il y a besoin vraiment de changer ça et la situation s'est complètement dégradée de ce point de vue-là. C'est l'affaire de tous, ce n'est pas qu'uniquement l'affaire de migrants.
Qu'est-ce que c'est, à votre avis, qui a provoqué cette dégradation?
Un système où il faut faire de l'argent dans un temps très rapide. Donc tout ce qui est social, je dirais l'intérêt des gens et leurs besoins sociaux, les financiers, ils s'en foutent. Donc ils délocalisent comme ils veulent. Et le monde est devenu un village. Eux, ils ne s'encombrent pas de frontières. Ils exploitent aussi bien dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord. Parce que vous savez, dans le Nord, il y a aussi beaucoup de Sud, avec toute la misère que nous connaissons, des nationaux qui dorment dans la rue, qui mangent dans les poubelles. C'est terrible quand même ce que nous vivons en Europe pour des pays très développés. Et nous avons aussi beaucoup de Nord dans le Sud. Nous avons des oligarchies, des compradors, nous avons des gouvernements qui sont corrompus. Et il y a de la richesse en Afrique. Il faut voir ça d'une vision globale du monde. Aujourd'hui, l'être humain, les besoins sociaux de l'être humain sont délaissés complètement. On ne peut pas continuer que ce soit 10% de la population mondiale qui détient 90% de la richesse mondiale. C'est impossible de continuer comme ça. Donc, plus on continue à avoir des politiques discriminatoires, que ce soit dans le Nord et dans le Sud, plus la situation deviendra de plus en plus explosive. Et donc, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui trouvent refuge, y compris dans l'obscurantisme, dans les idées de terrorisme. Je ne dis pas ça pour justifier. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Pour conclure, vous pouvez nous donner quelques indications sur les possibles façons d'utiliser la charte.
On travaille sur le contenu de la charte, comme on l'a demandé et l'a adopté à Gorée, mais on réfléchit en même temps, qu'est-ce qu'on fait de cette charte-là? Est-ce qu'on va, par exemple, la faire signer par 10 millions de migrants dans le monde? Est-ce qu'on la fait adopter aussi par des organisations qui agissent en faveur de l'immigration? Est-ce qu'on va la présenter à des États? Est-ce qu'on va la présenter à l'ONU, à des institutions internationales? Tout ça sera décidé à Gorée. Je n'ai pas de réponse à vous donner maintenant, mais il y a plusieurs pistes. En tous les cas, il est certain que si nous voulons que ce soit une charte, qu'elle devienne référence, elle a besoin d'être présentée au maximum de migrants dans le monde, aux autres êtres humains, bien sûr, dans le monde, parce qu'on est tous des migrants potentiels, hein, quelque part, et aussi, bien évidemment, aux organisations et aux institutions internationales.
Quelle a été la réponse des immigrés?
Chaque fois que nous avons tenté de prendre contact, c'est l'enthousiasme le plus extraordinaire. Vous me direz que ce n'est pas grand-chose par rapport au nombre de migrants dans le monde. Hein. Vous savez, en Chine populaire, il y a 100 millions de migrants à l'intérieur de la Chine. Mais on pense avoir touché à peu près, qui ont participé de près ou de loin à une réunion, à plusieurs, etc., à peu près entre 10 et 12 000 personnes qui ont participé à l'écriture collective de la charte. Sur notre site internet, il y a eu plus de 53 000 clics. Ça suscite aussi parfois des interrogations. Pourquoi faire une charte? À quoi elle sert? Etc., etc. Mais en même temps, c'est beaucoup plus d'enthousiasme que de freins que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant. Et effectivement, ceux qui ont connu les déplacements, ce sont des gens qui sont les plus aptes à échanger et à faire comprendre que notre développement humain, il passe aussi par le mélange de nos cultures, par la transmission, pour aider et édifier ensemble un nouveau monde pluriel, un monde solidaire et un monde responsable, vers une démarche universelle de l'amour de l'autre.
En effet, la coordination et surtout le fait que les immigrés commencent à s'organiser et à prendre des décisions. Est-ce qu'on peut considérer ça comme le premier important acquis d'une évolution qui, on espère, va améliorer la condition des immigrés, même en dehors de ce qu'on fera et comment on utilisera la charte?
La charte, elle avait pour but de libérer l'expression individuelle et collective des migrants, parce que la parole, elle leur a été souvent confisquée, soit par des associations de migrants, soit par des associations de solidarité, soit par des syndicats, soit par des partis politiques, confisqués. Et donc nous voulons libérer la parole des migrants. Et nous voulons aussi libérer la capacité humaine de chaque migrant d'appeler à son imaginaire et à son rêve et de le permettre. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les mouvements qui se structurent à partir d'immigrants sont des mouvements importants parce qu'ils viennent montrer que la question de la mobilité humaine à travers le monde est une question structurelle de l'humanité et du monde. Les migrations sont des questions structurelles du monde et de l'humanité. Donc, c'est tant mieux qu'il y ait de plus en plus d'immigrants qui s'organisent pour affirmer leurs droits et l'égalité de droits avec leurs semblables dans les pays où ils vivent, mais en même temps aussi qu'ils contribuent à toute tentative de construction politique et de changement dans les pays où ils vivent et à travers le monde. Il faut aussi qu'ils se libèrent du joug de l'exploitation, qu'elle soit celle des patrons, que ce soit des organisations criminelles, bien évidemment. Parce que les criminels vivent sur le dos des migrants. Et seuls les migrants, en dénonçant, etc., peuvent aussi aider tous ceux qui luttent contre le système mafieux, que ce soit en Italie ou ailleurs. Hein.